création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Après avoir abordé hier les rivages de la fiction, nous allons naviguer aujourd'hui dans les œuvres radiophoniques auxquelles Michel Kreis a été associé en tant que chef opérateur du son. Effectué pour ce qu'on appelle un livre de connaissances, cet enregistrement a existé dans le cadre d'une démarche de gestion des connaissances initiée par la direction de la production et des antennes de Radio France. Autant dire qu'il s'agissait de recueillir et transmettre le fruit d'années d'expérience à Radio France. À cette époque, tout comme le prônait en pâté bas en son temps, la sauvegarde des traditions orales était considérée comme une opération de nécessité urgente. Grâce à cet enregistrement, il va être possible de croiser José Pivin, René Janté ou Gilbert Maurice Duprez, mais le point central est l'apparition en 1969 de l'atelier de création radiophonique comme laboratoire d'écriture et aventure de création radicale. Un défi à relever. Michel Kreis à la CR, par Frédéric Changenet, Edwige Rancière, Patrick Muller et Jean-Baptiste Etchepar-Borde, création on air.
Le livre de connaissances de Michel Kreis, approche historique.
Ça tourne.
La première émission sur laquelle j'ai travaillé, c'était Bon Baiser de Partout. C'était la dernière série de Bon Baiser de Partout. Là, c'était un feuilleton. Donc on a enregistré assez souvent. Donc, et c'était Lavoignac qui était l'ingénieur du son. C'était des vieilles consoles, c'était des vieux studios, c'était des anciennes consoles métalliques à lampe. Et on tournait en 38 et on faisait des volets pour faire des reprises. C'est comme les reprises de Polar quand ils faisaient les mix-films. Donc ils renvoyaient, tu fais comme un drop, quoi. C'est la même chose, c'est du drop manuel. Voilà. Et puis des fois ça se plantait, on faisait un collant, on faisait des collants aussi. Hein. Mais là, c'était pratiquement fait en temps. Tout était fait en direct, pratiquement. Ouais. Les bruitages, ils envoyaient. Bon, comme on fait maintenant, ça arrive de temps en temps de mixer. Peut-être, on mixait les musiques aussi, tout partait en même temps. Ouais.
Tous les agents du SDUC dans le bureau du colonel. Je répète, tous les agents du SDUC dans le bureau du colonel et qu'on se hâte.
Allez, silence, silence. Gardez-vous, repos.
Non, mais il faudrait savoir ce que vous voulez, mon fils, et où vous voulez en venir, mon colonel.
Oh, vous, mon révérend père de jumelles, hein, vous n'allez pas commencer à me casser les... Et quoi déjà, Mme Roscoe ?
Les prérogatives, mon colonel.
Bon, vous avez entendu, mon révérend père ?
À quoi vous sert-il de blasphémer ainsi, mon fils ?
Vous dire à tous autant que vous êtes que vous n'êtes qu'une sacrée damnée bande d'incapables et de bons à tout et de propres à rien. Silence ! Vous n'avez qu'un seul droit, celui de la boucler, qu'un seul devoir, celui de m'écouter. Compris ?
Oui, mon colonel.
Il y avait un truc assez étonnant aussi. Par exemple, en 1967, il y avait un monsieur qui s'appelait Relot, qui était un très très vieux technicien, qui était avec une blouse blanche, une grosse moustache. Là, c'était vraiment une autre génération, qui était carrément avant. Et ils faisaient des tables rondes au 1967, et ils mettaient, alors je ne sais plus dans quel sens, je pense qu'il y avait un chops en omni suspendu, un lemme dans le trou de la table, et tout le monde parlait comme ça, et il n'y avait aucun problème, ils ramassaient leurs papiers. Et ça détimbrait pas, il n'y avait pas de souci. C'était un son au 167 qui était un peu bizarre, mais ça détimbrait pas du tout. Et bon, ça a duré encore un petit peu, après il est parti. D'autres techniciens sont venus, ils ont commencé à mettre d'autres techniques. C'est-à-dire que quand il est parti, bah, on a commencé à mettre des micros à tout le monde. Et là, d'un seul coup, ça marchait. Enfin, les gens qui étaient là, les producteurs, disaient « mais ça marche pas du tout, parce que des fois on nous entend, et puis des fois on nous entend pas ». C'est vrai, parce que oui, ils continuaient de parler en ramassant leurs papiers, mais complètement... à côté du micro. Donc là, il y a eu un moment assez étonnant.
Ce texte a été écrit en fonction des servitudes techniques
un enregistrement stéréophonique. Point. Le déroulement onirique de l'action permet une certaine cohérence dans l'incohérence inéluctable que suscite en quelques deux minutes l'accumulation de problèmes techniques. De quoi ambiance sonore, gris, gros plan sur Raphaël, gris, passage d'un lieu clair à un autre lieu clair, gris,
Moi, je pense que Pivin a amené. Il faisait déjà des émissions extrêmement politiques et très, très, très bien, extrêmement intelligentes. Mais ce qu'il a fait au Cameroun, c'est une espèce d'ouverture de la radio sur l'extérieur. D'aller capter comme ça des in situ et écrire avec. En allant chercher des éléments qu'on avait rarement entendus avant. Et cette espèce de grande liberté, de grande d'ouverture sur le monde et un travail assez extraordinaire de matière sonore. Bah, Jantet aussi, il y avait un travail baroque sur le son, sur les plans, c'était même pas du. Non, on n'est plus dans le réalisme, on est dans un. Il utilisait le son et dans une espèce d'hyper-expressivité.
Une étoile unique. Sexe en forme de pieuvre. Par où s'évader? Je me suis évadé.
Tout seul, sans complice.
Par mes propres moyens, monsieur le président.
En tuant votre mère.
Oui. Petit.
Maman, maman.
Après,
monsieur M. Ménard.
Maman.
Tout seul. Sans complice.
Par mes propres moyens, monsieur le président.
En tuant votre mère.
Oui. Elle est morte sur mon passage. Sans crier gare.
Si tu veux, à partir d'un certain moment, quand même, il y a une. On est passé de producteur universitaire à une notion d'auteur radiophonique, de gens qui venaient à la radio et qui était vraiment dans un statut d'auteur, qui venait avec vraiment quelque chose à développer. Pas simplement transmettre une idée ou une information, où il y avait vraiment des gens qui avaient une écriture et qui développaient vraiment un thème très personnel. Il y avait déjà des gens, avant les Surpris par la nuit, il y avait Gilbert Maurice Dupresse qui faisait une émission qui s'appelait De la nuit. Et Gilbert Maurice Dupresse venait lui aussi... Il travaillait pour Notre Temps. Enfin, je veux dire, tout ça ne sort pas ex abrupto. Ça vient, ça se développe, ça bouge. Il y a toujours des gens. Tu vois, il y a toujours quelque chose avant dont c'est issu, et puis après il y a un bouleversement. C'est jamais, rarement des cassures aussi violentes. Ça passait la nuit. Gilbert, il avait son émission tard. Mais en gros, il y a quand même eu là à ce moment-là un changement dans la radio, dans la façon de l'aborder. Pareil, hein, il y avait Claude Villers à Inter, et puis il y avait Lorient Coin. Lorient Coin à Inter, dans les années le TSF 68, TSF 69, c'était fabuleux. Moi. J'ai écouté ça, ravi. Quoi. C'était extrêmement fort, extrêmement engagé. Codou Garretto, c'était quand même des grands monsieur de la radio. Hein. Ils ont inventé plein de choses, hein. C'est pas l'oublier non plus.
Il y a une chose qui pousse difficilement aussi. C'est pas l'intellectuel. L'intellectuel, ça pousse pas ici. Ça pas le loisir de pousser. L'intellectuel, c'est une fleur de serre et de luxe. Non, il pousse. Ce qui est difficile même de faire pousser ici, c'est le gendarme, c'est le contrôleur des contributions, c'est l'employé des indirects, le rat de cave qu'on appelle, c'est l'instituteur. Et l'instituteur, le rat de cave, tout ça, le contrôleur des contributions, Ça se fabrique ici. Tu as devant toi une école avec sa cour, 6 platanes dans chaque cour, ses classes, hein, avec le tour des fenêtres en briques rouges comme dans toutes les écoles de la Troisième République. Et si tu veux, je te raconterai comment pousse un instituteur. Hein? On va le voir, on va attendre qu'il sorte. Et je te les montrerai, comment ils sont, quelle taille ils ont. Enfin, on verra ça. Je vais te montrer comment pousse un instituteur.
Il y a une autre cassure, c'est la création, enfin, la mise en place de l'ACR,
ah,
en
69. Ouais.
Mais donc l'ACR, c'est retrouver... c'est Trutac, qui est quand même quelqu'un qui est au milieu de la poésie, enfin, c'est des grands intellectuels, et puis des gens qui adoraient la radio, quoi, quelqu'un qui a... Et leur idée, c'était d'utiliser la radio, mais de créer une syntaxe sonore. Utiliser la radio comme un médium à partir duquel on pouvait écrire, et pas simplement comme un objet, simplement une retransmission. Pas simplement un médium de retransmission. Puis c'en est un, d'ailleurs. Hein. Tu peux mettre des micros dans un stade de foot, et puis il y a un mec qui commente, et c'est d'ailleurs parfaitement honorable, hein, ça marche très bien. Mais eux, ils étaient dans une autre démarche. Et donc d'inventer une écriture, d'inventer... à la fois en utilisant les possibilités de technique, donc déjà le Nagra Mono, et puis en retravaillant, ben ça donne un peu ce breaking point, là, le mec génère, il est venu historiquement, et il est arrivé avec toutes ses bandes, c'était un photographe qui était parti au Vietnam, il avait un Nagra, je ne sais pas pourquoi, mais il a enregistré plein de trucs, il les a amenés, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il a déposé les bandes, il dit voilà, j'ai tout ça, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, et Alain a dû écouter, était intéressé, et il a demandé à Gilles Antoine de construire un objet sonore à partir de ça. Quand vous avez écouté, 72, hein, des trucs qu'on n'entendait pas à l'époque, hein, même la façon dont c'est construit. Hein.
You number one.
1, 2, 3, 4.
On 4? Why is she 4?
1, 2, 3, 4.
You prejudiced?
Me 1, 2, 3, 4.
Oh. Oui.
Oui.
Hein?
Donnez l'argent, monsieur. Donnez l'argent. Payez mes deux paquets de
cigarettes.
Are you what? Oh, okay.
Give me.
Give you. There. Soy, oi.
Mon Dieu.
Comme ça.
260.
Et comme ça.
Non, 160. 170.
Thank you, my
mama.
Okay.
Oh, quit squeezing my nose.
Obligeant l'ennemi à adopter une stratégie défensive sur tous les champs de bataille.
Jacques Chardonnier avait eu une idée de servir de l'atelier comme un studio site de formation de techniciens, d'opérateurs. Et donc, après, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur des moyens. Alors, effectivement, là, ils essayaient, il y avait des mixages très violents, ils essayaient toi, de construire, de trouver une façon de se servir de cette matière pour dire des choses. Qui était moins linéaire et plus que ce qu'on faisait, qui était quand même tout en dramatique, dans des codes de l'époque, qui perdurent d'ailleurs, hein, il n'y a pas de... Mais là, effectivement, il y a eu un début de travail qui a perduré pendant pas mal de temps, et qui a bien sûr diffusé petit à petit dans les autres chaînes, et ça a influé, et influencé, ça et d'autres choses. La radio de l'époque. Il faut savoir qu'en 70, quand même, il y avait le ministère de la formation. Hein. Donc ça influait aussi pas mal sur le...
Jeanine Antoine avait quitté la CR
Et je m'étais dit, oh, enfin, il y a une place à l'atelier. Peut-être que je peux briguer une place à l'atelier. Et je me revois arrivant toute petite à la... Ça s'appelait la cellule 125.
Marie-Ange Garandeau.
Dans laquelle il y avait...
Assistante à la réalisation de l'ACR.
Des personnages très, très, très effrayants. Tout le monde était effrayant. Il y avait René Farabée, Jean-Loup Rivière, Jean-Marc Fonbonne et Andrew Orr.
ACR. Atelier de création radiophonique.
Alain Toutain venait de quitter la direction de l'atelier et c'était donc les quatre personnages qui désormais faisaient office de grand patron.
Moi, j'aime les music-halls et on dira ba-ba-ra-ba-ra-boum.
Atelier de création radiophonique.
Para-para-para-pam. L'ai-je bien descendu?
L'avons-nous bien monté?
Para-para-para-pam, car il y aura toujours Lévi-Strauss, Barthes et Lacan, Deleuze, Guattari et Val.
Ah! Dodo de Boubou, Bernadette Chachacha, Michou Crazy, Dolly Dahlia, Rita Faribol, Angine Gardenal, Vendetta Cool, Vérité Montminou, Andréa Sau. Mika Trombone.
Pour faire l'atelier, il fallait
Monique Dorguière, chef opératrice du son.
Aimer passer du temps, tout en ayant l'air de rien faire, à avancer quoi, dans les mixages, dans les préparations.
Grâce à l'indiscrétion d'un microphone, nous allons donc vous faire assister à la dernière répétition d'une revue à grand spectacle.
Alors, on est toutes nues.
Bonjour, bonjour, chérie. Vous êtes très belle aujourd'hui. Vous êtes toutes nues dans la musique.
Donc là, t'apprends à voir comment ils mixent plusieurs machines en même temps. Enfin, même beaucoup de machines. Genre... 5 magnétos en même temps, 3 matrices avec des bouts très très courts. Des fois tu mettais une heure à faire pour la 30 secondes d'émission.
La gloire.
De plumes.
Donc Michel, on travaillait surtout avec lui sur les ateliers de création.
Philippe Bredin, opérateur de Michel Créis à l'ACR.
3 jours de montage, genre 3-9-20, avec René Farabée, souvent. Plus le chargé de réalisation. Et après, le vendredi, samedi, donc 2-9-20, pour mixer l'émission qui, en général, passait le dimanche, dans la foulée.
À la CR, il y avait le temps, quand même. Et c'était quand même l'idée qu'on pouvait travailler, quand même. Il n'y avait pas de... T'avais pas la pression derrière pour qu'on dise, bon, bah là, faut aller vite, et puis il faut pas que ça coûte cher. On n'était pas dans ce rapport-là. Donc, il fallait avoir envie de mettre les mains dans le cambouis et de bricoler et de jouer avec les outils, quoi, de démonter le moteur, le remonter.
Et on y passait un temps infini, infini, sur chaque atelier.
Le rideau d'or s'envola et Cécile, en panaché de la tête aux pieds, abritée sous un parasol de plumes que portait un magnifique athlète noir, descendit superbement l'escalier d'or. L'ai-je bien descendu ?
Mais le résultat, souvent, était quand même ce qui se faisait nulle part ailleurs. Voilà.
sauf dans d'autres radios dans l'Europe à l'époque. Pas oublier qu'il y avait la RAI qui faisait de la création, il y avait toujours les Suisses qui en faisaient, l'Allemagne en faisait dans différents pôles aussi. Ah non, non, il y avait encore...
Ici, c'est la sortie de ces cures.
Good morning, Vietnam.
Briandas, 1972.
L'idée aussi, c'était pour arriver à cet accord et pour qu'il y ait une fusion, il fallait quand même qu'on travaille assez longtemps ensemble, pour qu'il y ait une espèce de continuité. Il y avait une cohérence quand même, qui a un suivi. C'est ça qui donnait aussi cette qualité, d'une certaine manière, au travail.
Jean-François Néolier.
Bon, et puis attends, l'atelier, c'était une famille. Hein.
Opérateur de Michel Créis à l'ACR.
Toutes les fins d'atelier, ça se terminait chez l'un, chez l'autre, avec une bouffe, avec le producteur et tout.
Ouais, c'est peut-être ça aussi, une équipe, c'est qu'à un moment...
Manouchak Fochahi, chargé de réalisation.
Ouais, le mot de famille est juste, quoi. Il y a quelque chose qui se crée, il y a des liens invisibles et très forts. Il faut que les choses se font très naturellement.
Il faudrait que je dise que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler seul non plus.
Kay Mortley, productrice.
J'aime bien avoir quelqu'un qui est comme un alter ego, mais qui n'est pas impliqué de la même façon dans le projet. Quelqu'un qui interroge le travail, mais de là où il est, lui.
La création radiophonique... Oui, on est passé à autre chose.
Enfin, c'est surtout dans le concept, parce que des fois, tu comprenais pas. Quoi. Tu te dis, c'est quoi ces allumés? Mais qu'est-ce qu'ils font? Encore une dramatique, t'as un peu du texte, t'avais des concepts et des missions, où t'as le producteur qui te fait « Bon, alors là, on a un bruit de pelleteuse, alors, on a une pelleteuse qui pelte de gauche à droite. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que à gauche, on va mettre un tas de fréquences, et la pelleteuse, elle prend une fréquence, elle le met dans le tas de droite, enfin, et voilà, c'est ça le projet. » Enfin, un bout du projet de l'émission. Ok, il faisait pareil avec des moustiques, quoi. Il avait fait aussi deux moustiques. Hop là, il se rend compte. Alors là, il y a un autre moustique qui naît. Donc ça n'arrête pas de copuler les moustiques. À la fin, ça finit avec un essaim de moustiques. Et toi, t'as un son de moustique au début, tu vois. Toi, t'as un son de moustique et puis vas-y, tu te démerdes. T'as, tu vois, t'es en analogique... Toi, t'es là, tu dis, ouais, c'est possible.
Bon. Que ce soit Monique, ou que ce soit Michel, ou que ce soit Madeleine, ou que ce soit Yann, chacun avait une personnalité déjà très, très, non, très, très forte.
Atelier Création, oui, c'est une bonne école.
Tout ça, c'était la même famille, et la même famille radiophonique.
C'est une bonne école, ça. Maintenant, ça se fait moins.
Chacun mixant, mais différemment, mais toujours pour atteindre, je dirais, quelque chose... Pas de parfait, mais peut-être de plus que parfait. Et toujours réécoutant, bien entendu, à ce qu'ils avaient fait, remettant en cause toujours ce qu'ils avaient fait, n'étant jamais content.
Ouais, au bout de 12-13 heures, ouais, j'ai commencé à en avoir marre des fois.
Et refaisant, recommençant, pour aller toujours plus loin.
Ouais, je pense que c'est plutôt cette espèce de recherche de la perfection, quelque part, quoi. Ouais, puis il aimait bien sortir des situations bien emmerdantes, quoi. Tu vois, vraiment des attends, des demandes des fois de gens de l'atelier, mais c'est hallucinant, des trucs. Il y a que lui qui pouvait faire ça. En tout cas. Et c'est ce que disait Farabet d'ailleurs. Ah, ça, il y a que Michel qui peut le faire. Parce qu'il lâchera pas le morceau et qui relèvera le défi, quoi. Bah, si tu voulais finir à 4h du matin un dimanche, faut quand même avoir une considération de son travail.
1952, créé par la Suisse et la France, le premier concours international du meilleur enregistrement sonore révèle la réalisation d'un étudiant de l'école polytechnique de Lausanne, Stéphane Kudelski, le Nagra.
Il y a eu, non, il y a eu une grande rupture, par contre, avant, c'est le Nagra, Nagra stéréo. Alors ça, ça a quand même permis une grande ouverture. Et avant l'arrivée du Nagra stéréo, Chardonnier, il y a plein de sons, la mer, là, il l'a enregistré, ils sont partis avec des gros magnétos et des camions. Hein. Donc, si tu veux, il y a des choses qui ont commencé à faire changer déjà la radio et la forme d'écriture. Tu vois, les journalistes partaient à Europe avec des Nagra. Les années Nagra 3, c'est les années, fin des années 50. Donc, ça a déjà amené des changements. Donc, quand je suis arrivé, il y avait déjà eu des changements. Puis, après, il y a eu le couple, le RTF, fabriqué par Shops, qui a permis aussi de sortir et d'avoir un ensemble homogène et qui permettait de faire ce que tu voulais. Et puis, ensuite, il y a eu une grosse... Je pense que le gros changement, pour moi, en tout cas pour les documentaires, c'est l'arrivée du DAT, pour deux raisons qui sont assez contradictoires. Enfin, quand on enregistrait avec un Nagra en extérieur, t'as les bobines d'un quart d'heure. Et donc, t'es obligé d'intégrer le fait que t'as un quart d'heure d'enregistrement dans ta machine. Et selon les événements qui vont arriver, bah, tu vas être attentif au temps qui passe. À partir du moment où arrivait le DAT, on a eu des cassettes d'une heure, et là, on pouvait enregistrer tout et rien. C'est-à-dire qu'on en enregistre des kilomètres et des kilomètres. Donc il n'y a pas un travail de sélection en amont qui se fait moins. Donc tu te retrouves avec une quantité de rush assez étonnante. Ça, c'est valable aussi pour la vidéo. Hein. Alors par contre, l'autre chose... Oui, bon, le Nagra, bon, avec ses qualités, la qualité des préamplis, mais ça, on pouvait le retrouver sur d'autres machines, mais l'effet d'amortissement de la bande qui te permet de ne pas saturer, enfin, que la saturation soit moins dramatique avec une machine analogique à bande qu'avec un DAT. Le DAT, c'est une catastrophe. Mais en même temps, le DAT, tu réglais des problèmes, il n'y avait plus de pré-écho, enfin, de post-écho, d'écho de bande, il n'y avait plus d'effet de crackling, donc il y avait aussi des éléments qui étaient assez intéressants. Bon, il y a eu un changement de technologie qui fait qu'il y avait à la fois des avantages et des inconvénients. Mais ça, il y a eu une rupture quand même là.
1987, Michel Kreis intervient dans la CR Nagra de Yann Parentoen.
Mais... Pour revenir au Nagra, je voulais depuis très longtemps faire du son, mais c'était flou comme ça dans ma tête. J'étais fasciné par le cinéma, par une ambiance comme ça, quelque chose. Et un jour, quand j'étais jeune, c'est Albi Coco qui tournait le Grand Maulne dans le Marais. Et j'étais sur le tournage, comme ça, fasciné. Et il y avait une équipe de la télévision suisse qui était venue faire des interviews. Et le preneur de son de la télé suisse était comme ça, assis dans le jardin. Et il avait un Nagra 3, les vieux. Celui avec un énorme vumètre à droite, plus les deux potentiomètres, de la même taille que le vumètre, enfin, un appareil superbe. Et je crois que c'est en grande partie la vue de cet appareil qui m'a décidé à faire du son. Alors je ne sais pas exactement quoi, c'est la fascination de l'objet, ou le côté mystérieux, parce que la caméra, on voit à peu près ce qu'on cadre, on sait à peu près où on va, tandis que le son, c'est totalement impalpable. Ça rentre sous cette boîte, il y a une aiguille qui bouge... Tout ça paraît très, très, très mystérieux et très compliqué. Tu sais plus ce que tu m'avais posé comme... Ah, c'est... Attends, je vais redémarrer. Hein.
Ce que vous entendez là, nous l'appelons le vroom. Nous avons essayé... avec le laboratoire acoustique de l'ORTF, de préciser pataphysiquement, à partir d'un objet sonore approchant de l'élémentaire, les limites de la stéréophonie.
Et puis donc la stéréo est venue, on est passé... Après, on a diffusé en mono et en stéréo. Tu avais des dramatiques mono, des dramatiques stéréo qui n'étaient pas payés de la même manière. Et donc ça donnait lieu à des trucs un peu... Quand tu faisais un collant, des fois tu étais surpris. Et puis, à un moment, à l'arrivée des premières consoles, tiens, voilà, des consoles Studer. Ça, ça doit être dans les années 80, à peu près. À l'arrivée des consoles Studer, on avait des consoles avec lesquelles tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu avais un patch, et puis des groupes, et des départs. Et donc là, ça commençait à être rock'n'roll, parce que quand tu faisais de la mono, bah, tu avais des magnétos qui étaient, par définition, eux, ils arrivaient avec des têtes stéréo, mais les A80, tu avais un switch, tu pouvais basculer le magnéto en mono. La voix gauche, hop, alimentait les deux têtes. Les consoles, pareil. Ce qui a donné, pendant une période qui a dû durer un peu plus de 6 mois, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire les consoles paramétrées en stéréo arrivant sur un magnéto en mono, les consoles en mono arrivant sur un magnéto stéréo, et donc à l'antenne arrivaient des trucs où tu avais, je me rappelle l'été, diffusé des bandes où tu avais d'un seul coup la tour Eiffel qui te disait « Non, il n'y a rien à droite, c'est normal ». Et puis, ce qui a influencé aussi, je pense, c'est la période de 75 à 81 des radios libres.
Chers auditeurs, chères auditrices,
qui d'une certaine manière ont amené un chambardement
et occultiste. Je suis ici pour assister à une séance particulièrement extraordinaire. Après les tables qui tournent, les chaises qui tournent, les verres qui chantent, les montres qui mollissent et les petites cuillères qui se tordent, encore plus fort, en direct pour vous, un képi tournant.
Bon, alors, faut y aller mollo, parce que...
Oui, maître.
Ça, c'est un képi du 18e arrondissement. Mmh. On va essayer de le faire tourner. Martha, vous arrêtez 2 minutes, s'il vous plaît. Parce que... Bah, vous pouvez nous laisser...
Oui, maître.
Voilà. Alors, on va lui poser les questions rituelles.
Parce que c'était quand même sous tutelle. Et qu'on pouvait pas dire n'importe quoi, même à l'atelier, où il y a quand même des fois des choses qu'il fallait faire. Bon, il faut en parler avec les producteurs de l'époque, mais même jusque dans les années avant 80, Ambrou rappelait, là, dans une émission de pas loin de Baumgartner, là, un vendredi soir, il y a 3 semaines, là, que, bah, il y avait des fois, c'était, Trutail était ouvert, mais il y a quand même des fois, il fallait faire un peu gaffe à ce qu'on disait. C'était quand même un peu cadré, tout ça.
C'est-à-dire, il y avait des sujets qu'on pouvait pas aborder.
Il y a des sujets qu'on pouvait pas aborder, oui. Par exemple, ouais. Sur le pouvoir, parce que Fonbonne avait fait toute une émission, et bon, il y a des choses, il y a des retombées quand même. Mais il y a une dramatique avec Jean-Pierre qu'on avait fait, qui s'appelait Demain la fête. C'était dans le nouveau répertoire dramatique d'Atoun, où les ouvriers fessaient les patrons. Enfin, tu vois, c'était tout un truc assez rigolo. Bah, le texte est parti chez le Premier ministre quand même, parce qu'un député l'avait entendu, et bon, l'émission a été diffusée. Bon, enfin, il y a eu quelques émissions qui ont disparu quand même. Hein. On les a jamais retrouvées. Curieux. Je sais plus lesquelles, hein, mais c'est arrivé.
C'est incroyable quand même.
Ce qu'amenaient les radios libres, c'est donc essentiellement une liberté de ton. Ou est-ce qu'ils ont autrement l'esthétique?
Il y a une liberté de ton et une liberté de forme, parce que par exemple, entre autres, les radios vertes, il y a une partie qui avait été mixée dans. Ici, et puis il y a des gens après qui... Par exemple, Nova est issu de l'ACR, de France Culture. Parce que, bah, tout le monde le sait, c'est pas grave. C'est-à-dire, les producteurs qui bossaient là sont, au bout d'un moment, en 81, et ils ont... parce qu'ils étaient dans une filière et en connaissance avec d'autres personnes. Bizot était intéressé, Nova s'est monté. Et Nova, c'était dans la même logique de recherche que l'ACR. Puis il y a eu d'autres radios aussi, tu veux. Tout ça a fait, à la fois dans la forme et dans le fond, quand même un brassage important. Cela dit, les socialistes arrivés au pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, il a fallu leur forcer un peu la main pour qu'ils acceptent quand même de libérer. Ils avaient oublié d'un seul coup, là. Qu'ils avaient promis de supprimer le monopole. Bon, cela dit, hein, après, en supprimer le monopole, ça a aussi, 10 ans après, amené des tas de choses. Mais... On est quand même sorti de... Et donc ici, le retour, c'est que ça a quand même changé. Petit à petit, tout ça a diffusé. Bon, il y a eu des gens qui ont... Ça s'est ouvert avec pour les documentaires, Surpris par la nuit. Il y avait déjà des choses qui étaient magnifiques avant.
Je fais mon maximum, Marguerite.
C'est par la bande, c'est la fin de l'analogique. C'est pour ça qu'on se demande qui se souviendra de la technique, de la réglette et des ciseaux, des bobineaux, des magnétos.
un hommage à la radio.
Un hommage à la radio.
Un hommage à la radio. Sur une idée de Sophie
Bissons. On a eu des outils numériques comme l'AMS. Il y a eu des essais avec d'autres machines qui sont arrivées à la radio. Alors là, je dirais que c'était même avant 90, je pense. Et ces machines, c'était des machines multipistes qui permettaient de faire du montage et de l'organisation. Enfin, tu pouvais monter tes éléments et ensuite les installer sur un multipiste numérique. Mais tu ne mixais pas dans la machine. Il fallait que tu reprennes tes sources, et tes sources, tu les ressortais, tu repassais par une console et tu remixais. Un des avantages, c'est qu'on pouvait aller vers des mixages plus complexes en éléments, mais on avait déjà cet inconvénient qui était que c'était déjà figé dans le temps. On les avait déjà prépositionnés. Mais ce qui nous intéressait à cette époque-là, c'était la complexité plus importante qu'on pouvait obtenir. Et le fait que quand on remixait, quand on se gourait, quand on reprenait, on n'avait pas... on avait à refaire les niveaux, le mixage, mais pas à la fois le mixage dans les équilibres, mais aussi le mixage dans le tempo. Ce sont des mixages complexes. Quand tu recommençais, des fois, tu le refaisais une, deux, trois, quatre. C'était beaucoup, beaucoup d'éléments. Après, tu l'avais dans la main, hein, ça venait, mais il fallait quand même le refaire plusieurs fois. Bon, là, on pouvait se détacher de ce côté mécanique d'envoyer les éléments, mais en même temps, on s'aperçoit que c'est aussi intéressant, cette perte-là, et on s'en est aperçu après, c'était pas innocent non plus, tu vois. Mais au début, je pense que ça nous a pas gênés. Je pense qu'on était fascinés par la possibilité d'avoir une complexité, une maîtrise totale, mais alors folle, parce qu'on a fait des émissions obscènes, hein, réécoute, enfin obscènes. C'est-à-dire, c'est tellement calé, tu vois, tac, tac, avec des effets de... Et voyez, comme je fais double salto arrière avec rétablissement troisième étage, que t'écoutes plus, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y en a une, en tout cas, je l'ai foutu, mais on l'a écouté à l'antenne avec Patrick Roudier, qui était le producteur, et on a eu honte après, parce qu'on s'est pas rendu compte. On s'est laissé entraîner complètement là-dedans. Et ça a été fascinant, en même temps. C'était quelque chose d'assez... Tu vois, d'un seul coup, tu pouvais maîtriser tes trucs au quart de poil et rajouter de la complexité. Enfin, on était rentré complètement dans ce truc obsessionnel. Donc, il a fallu se dégager très vite parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas là qu'il fallait aller. Que ça tuait tout, ça fossilisait tout. Il y avait plus... on était fascinés par un élément et qui tuait le reste de l'outil. Ah oui, oui, donc il faut se dégager de l'outil.
Les palclos sont démodés, les collants ont filé, les bleus n'ont plus vraiment le profil.
Oui, alors petit à petit, les stations de travail sont arrivées, et c'est en travaillant dessus, hein, c'est pas immédiatement, on s'est aperçu que quand même... C'est pas la même chose, on n'écoute pas pareil quand on est devant l'écran. On n'écoute plus de la même manière, on est préoccupé par d'autres choses. Il y a d'autres... Alors on le prend en compte, hein, forcément, tout le monde le prend en compte et l'intègre. Et on s'habitue aussi à un nouvel outil.
C'est un long serpentin qui sont là, ça se délasse. La bande, c'est le bruit.
Excusez, mesdames.
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Je me présente, Gédéon Maxwell, et voici mon assistant, Sylvain Marconi.
La bande, c'est le...
Alors, nous venons poursuivre quelques investigations. Si vous le permettez, j'aurai deux ou trois questions à vous poser.
Des investigations ? À propos de quoi ?
Eh bien, il se trouve qu'on est à déplorer ici des disparitions intempestives. Alors, quelqu'un, bon, inutile pour l'instant de savoir qui, m'a, confié la tâche d'élucider tous ces mystères.
François. Et vous êtes de la sécurité ?
En quelque sorte.
La place de l'opérateur, elle a disparu. Elle reste dans les grands studios, dans les studios de musique. Dans les studios dramatiques, elle continue d'exister, même en mixage. Mais dans tout ce qui est petit studio de documentaire, par exemple, où on travaillait à deux parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour caler les machines, quand il y en avait cinq machines, plus les CD ou les 33 tours, toi, tu es à la console, tu peux caler un disque, hein, ou tu peux recaler vite fait une bande, ça, c'est faisable. Mais tu peux pas t'occuper, gérer l'ensemble des machines. Bon, ça a disparu depuis l'arrivée des stations de travail. D'où aussi une disparition d'une sorte de compagnonnage, enfin de travail, d'apprentissage par l'exemple ou par l'expérience, qui s'est perdu, une partie s'est perdue quand même. L'arrivée des outils numériques et des stations de travail a fait penser... je ne sais pas s'il faut le mettre là-dedans, mais ça fait penser à la direction qu'on allait faire des gains de productivité. Ce qui n'est pas évident, parce que ce qu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Mais de fait, on a des gains de productivité parce qu'on produit plus en étant moins maintenant. Et c'est-à-dire que le rythme de travail a changé. Quand même.
Surpris par... la nuit.
Chers auditeurs, si vous appelez pour l'émission de Surpris par la nuit, à l'écoute, veuillez laisser votre message. Merci de votre appel et à bientôt.
Votre message ne peut être expédié car cette boîte vocale est pleine. Au revoir.
Oui, bonjour. Mais oui, merci pour le numéro de téléphone. Bon d'accord, j'ai été surpris par la nuit à 14h. Et j'ai été surpris peut-être par la voix et par le cher auditrice, cher auditeur. J'ai tout de suite pensé, chers auditeurs.
Oui, chers auditeurs, nous avons été surpris, amusés, émus, interpellés par vos messages. Où, quand, comment écoutez-vous la radio ? Au-delà de l'écoute d'une chaîne, France Culture en l'occurrence, ce qu'il en ressort dans vos réponses est la place que la radio tient dans votre vie. Mais assez de commentaires. Place à l'écoute.
Début des messages sauvegardés. Pour écouter, proposer les 5 pour écouter vos messages. Puis le 1 pour écouter vos messages sauvegardés.
Alors effectivement, Culture était un peu plus plan-plan à cette époque-là. On est parti de 70 à maintenant. 70, on était tout seul sur la bande FM. Donc, on faisait vraiment... La dynamique, était maximale. Hein. Il y avait des écarts de dynamique extrêmement importants, à tel point que maintenant, quand je les réécoute chez moi, je suis plus habitué, je suis obligé de remonter, de baisser. Je suis plus habitué à ce... Ou alors, l'environnement acoustique a changé chez moi, ou mes oreilles, mais peut-être les deux, sûrement les oreilles. Mais on n'est plus habitué à ces sautes de dynamique. Les trucs que je vous ai donnés, je pense qu'il y en a certains, ça... Quand tu remontes parce que c'est d'un seul coup très faible, t'es collé au mur après. Hein. Alors là, la dynamique, elle a complètement changé. Là, effectivement, on ne travaille plus la dynamique du tout de la même manière. Et là, ça, c'est avec l'arrivée avec l'évolution des radios périphériques. Enfin, je dis pas libre, parce qu'avant, on disait libre, mais ça, c'est complètement con. Ils sont plus libres. Mais à partir de 81, où la bande FM a été de plus en plus encombrée, avec des stations, de plus en plus de stations qui font de la musique and news, et qui ont, pour être mieux perçus, mieux vendre leurs trucs et avoir plus de pubs, utilisent de plus en plus des compresseurs et donc sont de plus en plus denses, bah nous, on est resté très longtemps à continuer de garder une dynamique assez grande, en ayant un petit côté peut-être un peu méprisant, mais ça, c'est un jugement. Mais en oubliant qu'effectivement, on était dans un univers qui devenait de plus en plus bruyant, et dans lequel, nous, on ne sortait plus. Et donc, à un moment, il y a eu des décisions de prise pour que on soit, quand on se balade sur la bande FM, comme nous on avait un programme avec extrêmement plus varié, avec une dynamique beaucoup plus grande que les radios périphériques, bah forcément l'énergie moyenne était largement en dessous des autres radios. Et donc les directions demandaient à ce que ça remonte, parce qu'il n'y avait pas de raison que quand tu me balades, la seule station qu'on n'entend pas, c'est la nôtre. C'était gênant, donc on s'est retrouvé avec un programme extrêmement divers, extrêmement varié, et avec des impératifs de dynamique, parce que ça veut dire quelque chose, face à des radios qui n'en ont pas. Et donc, on se retrouve maintenant à travailler avec des dynamiques très réduites, et c'est pas très facile de concilier des plans lointains sur des dramatiques, et même dans des documentaires, avec une dynamique réduite à 2 dB. Mais bon, on essaye. Cela dit, il y a des choix techniques, qui ont, des choix de réglage qui pourraient être changés et qui pourraient permettre de, d'avoir plus de souplesse et la, autant d'efficacité. Hein. Après ça... Mais donc ça, effectivement, ça a considérablement changé. Et donc ça joue automatiquement sur la façon de travailler. Alors, moi j'en tiens compte. Je n'ai pas fait de statistiques parmi mes collègues, mais je pense que la plupart font ça quand même. Parce qu'il y a un auditeur, hein.
J'ai une chose à dire sur Michel Kreis, très très important, pour montrer, quand on parlait des grandes oreilles à propos de Daniel Tourcière, Madeleine Sola.
Manouchak Fochahi.
Michel, quand il mixe, ce compresseur, il nous casse les pieds, on peut le dire ça comme ça, et de nouveau, beaucoup. Et quand tu fais des ambiances, tu as très très peur, quoi. Parce que tout d'un coup, ça ressemble à une bouillie sans nom à l'antenne. Il entend les niveaux auquel il doit mettre les différents éléments pour que ça ne devienne pas une bouillie à l'antenne. Il l'entend naturellement, comme Madeleine Sona pouvait entendre une note qu'on n'entend presque plus, peut-être à son âge, à un certain âge, excusez-moi, avec le, tout le respect que je lui dois. Il entend ça. Il n'a pas besoin de se mettre sur une petite écoute pour et d'imaginer ce qu'un compresseur peut faire. Il l'entend naturellement. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai confiance, parce que je sais que à travers même cette antenne qui est déformée d'une certaine manière, pour bien sûr accéder au maximum de gens possible, lui arrive naturellement à reconstituer. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi.
Alors, il y a une chose qui va changer, par contre. C'est le podcast. C'est-à-dire, la technologie, avant, la technologie de la radio, c'était quand même, on écoute la radio, on la capte quand on est là. Et c'est fait partie de la magie de la radio, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Quand même... La radio, ça s'écoute plutôt solitaire. C'est quand même quelque chose. On peut l'écouter en famille, mais quand même, ce qui est magnifique, c'est écouter un programme la nuit. Enfin, la nuit, c'est tellement, c'est mon côté. Ça me fait rêver. Mais c'est quand même une radio de proximité. Ça s'adresse quand même plutôt à une personne plutôt qu'à une, trois, quatre, cinq, mais pas à 150 personnes. Tu ouvres ta radio, tu vas capter un programme, il va t'intéresser, si t'intéresse, tu restes. Mais quand même, tu sais qu'il y en a d'autres qui écoutent en même temps. Donc, quelque chose de... Il y a comme un lien impalpable qui se crée entre tous les auditeurs. C'est presque religieux. Enfin, j'exagère à peine, mais... Enfin, j'exagère un peu. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que t'es chez toi, puis en même temps, t'es relié à quelqu'un. Tu sais qu'il y a comme ça une toile qui existe. Alors, bon, en même temps, il y a aussi le fait que tu peux louper quelque chose, que tu peux le pas l'entendre. Donc, tu n'écoutes pas de la même manière quand ça passe à la radio. Ce que disait Yann, et il a raison. Hein. Quand une émission qui passe à la radio, tu l'écoutes pas de la même manière quand tu sais... que tu vas pouvoir, que quand tu la réécoutes, après, en téléchargement. Alors, c'est bien, parce que ça permet d'écouter des émissions, mais en même temps, c'est pas la même magie. Tu l'écoutes autrement. Tu l'écoutes dans une autre... dans un autre rapport, c'est une autre relation. Cette possibilité d'avoir du podcast, comme le podcast est prélevé avant le traitement d'antenne, je parle pour nos radios, là, chez nous... il vaut mieux écouter le podcast, parce que le podcast, au moins, on peut retrouver la liberté de ce qu'on fait, tu vois. Il n'est pas réduit... Mais bon, c'est paradoxal, et c'est très... C'est lié à, une, à un moment donné, à une technologie utilisée. Enfin, mais ça, c'est bien, parce que, en fin de compte, t'entends mieux quand t'écoutes le podcast, c'est plus agréable d'écouter que souvent quand t'écoutes à l'antenne, ce qui est quand même le jour... Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi.
C'était le livre de connaissances de Michel Kreis, Approche historique.
Avec Marie-Ange Garandeau, Monique Burguière, Philippe Bredin, Jean-François Néolier, Manouchak Fachori, Kay Morclay et Michel Kreis. Équipe de réalisation, Edwige Roncière, Patrick Mouler, Frédéric Changenet, Jean-Baptiste et Chopin Rebord.
Création On Air, seconde partie, L'Esconil, par Christophe Rowe et Céline Terce, produit pour Les Passagers de la Nuit, le 13 octobre 2006.
C'est le port de l'Esconil.
L'Escon, c'est breton. L'Esconil, c'est français. Finistère sud, au sud du bout de la terre. Voici une carte postale de petits sons pêchés dans le port de l'Esconil. Nous sommes en 2009.
Non, ici, Philippe, il y a beaucoup moins. Allez, il trouve. Ici, là.
Là-bas, il n'y a pas du tout.
On entend le buzz des frigos, les climatiseurs. On entend encore quelques bateaux de pêche. On entend les bling-bling des optimistes. On entend les motos, les voitures. On entend l'eau couler d'une mini-fontaine factice. On entend Johnny au fond du bar. On entend les mouettes, on entend les goélands, on entend les caisses de pêcheurs, on entend les vagues. C'est pas des mouettes, c'est des goélands. On n'entend plus le Concorde, on n'entend plus la crier, on n'entend plus la vache.
Salut.
On n'entend plus la vache. On appelle la vache parce qu'elle beugle un peu comme une vache. C'est une bouée. Une bouée sonore. Inutile aujourd'hui avec le GPS. Celle qu'on entend, c'est la vache de Brignot, Finistère Sud. Celle-ci aussi a disparu. Lorsqu'on l'écoute, on l'entend.
Demain, vous retrouverez à 23h Hélène Azéra. La semaine prochaine, dans Création On Air. Mercredi, L'Utopie Vegan, par Franck Thoraval et Gilles Mardi-Rossian. Jeudi, Sécrétion Indiscrète, par Aurélie Thion et Christine Robert. Il est l'heure de retrouver Philippe Garbi pour les nuits de France Culture.